Chers auditeurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro du Forum de Studio Kalangu. Place de la lecture dans la maîtrise de la langue française est notre thème de ce soir. Dans son manifeste sur la lecture élaboré en 1994, l'UNESCO a investi les bibliothèques de quatre missions clés, à savoir l'alphabétisation, l'information, l'éducation et la culture. Sur la base de ces quatre missions, on comprend que plus un élève lit, plus il est mieux alphabétisé, mieux informé, mieux éduqué et mieux cultivé. Au Niger, l'article 5 de la Constitution du 25 novembre 2010 fait de la langue française la langue officielle du pays. Elle est de ce fait la principale langue utilisée dans le domaine de l'enseignement. Rappelons que selon le rapport de l'Organisation internationale de la francophonie intitulé « La langue française dans le monde » paru en 2019 aux éditions Gallimard, cette langue française est aujourd'hui la cinquième langue la plus parlée dans le monde avec un nombre estimé à plus de 300 millions de locuteurs. Elle vient après le chinois, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. Ce statut de langue officielle qu'a le français au Niger est partagé dans au moins 31 autres États et gouvernements et dans la plupart des organisations internationales. Pourquoi est-il important de maîtriser cette langue française? Comment la lecture peut contribuer à atteindre cet objectif? Comment assurer une bonne promotion de la culture de la lecture au Niger? Pour en débattre, nous avons le plaisir de recevoir comme invité M. Amadou Edouard Lompo. Il est écrivain nigérien et directeur général de la Bibliothèque nationale du Niger. M. Soumana Chamsou, enseignant de français et de lettres au lycée. Et M. Abraham Idi, enseignant de français également. Bonsoir, chers invités, et bienvenue à la modération de ce forum. Je suis Michel Deji. Le 20 mars de chaque année est célébrée la Journée internationale de la francophonie, une journée de promotion de la langue française dont le thème retenu pour cette année 2022 est « La francophonie de l'avenir ». Cette journée est célébrée en référence au 20 mars 1970, date de création de l'Agence de coopération culturelle et technique ACCT, devenue Organisation internationale de la francophonie OIF. Au Niger, il est dit dans l'article 5 de la Constitution du 25 novembre 2010 que la langue officielle en République du Niger est le français, ce qui suppose que tous les citoyens du pays sont appelés à le parler correctement selon ses règles. Cet effort s'impose beaucoup plus aux acteurs de l'administration, aux autorités et aux communicateurs qui sont des personnes sur lesquelles les autres s'inspirent pour mieux parler la langue française. D'abord, M. Edouard Lompo, écrivain et directeur général de la Bibliothèque nationale du Niger. Que représente cette langue française pour nous aujourd'hui?
Alors, la langue française, par rapport à tout ce que vous avez dit tout à l'heure, devient une langue de promotion. Si vous voulez occuper des postes importants ici au Niger, si vous voulez que votre voix compte, je ne dis pas que les autres voix ne comptent pas, on va peut-être revenir dessus, il faut forcément maîtriser cette langue-là.
La langue française.
Voilà. Donc ici, il y a déjà une sorte de primauté qu'on accorde à cette langue. Et il faut forcément l'avoir. Il faut forcément avoir cette langue-là pour pouvoir accéder à des postes importants, pour, ne serait-ce que pour la vie de tous les jours.
Ça veut dire que ça attire le respect, la considération sociale.
On lui a donné.
On voit que quand quelqu'un fait une faute, on voit déjà que ça ne va pas.
Ah, du tout, du tout. Vous savez bien que, surtout chez nous, au Niger en plus. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, un peu à la côte, le fait de les fautes, ça ne gêne pas beaucoup. Mais ici, au Niger particulièrement, je pense que quand on fait une faute, ou même un prof, hein, j'avais des collègues qui sont là. Si vous faites une faute, si vous ne faites pas attention, ce mot va vous coller à toute votre vie. Donc les enfants qui font des fautes ou autres finissent leur carrière, ils ont toujours cette faute-là, comme surnom. Donc c'est très très important. La langue française a tout ce que vous avez, toute cette aura qui est autour. Donc je répète encore, on ne peut accéder à des fonctions importantes ici au Niger que grâce à cette langue-là. Malgré que nous ayons par exemple des écoles franco-arabes. Il y a des écoles franco-arabes et autres. Ça veut dire que vous avez aujourd'hui des gens qui sont docteurs dans d'autres langues, mais on les considère presque comme des illettrés. Voilà, c'est...
Ça veut dire tant que la langue française n'est pas parlée par la personne, ouais, on considère que ça manque.
D'où je peux peut-être extrapoler en disant que voilà pourquoi les autres écoles ont échoué. Toutes les écoles qui sont bilingues ont échoué, pratiquement. Pourtant, les taux de réussite sont très bons. Ceux qui font, par exemple, Hausa, Germain, les écoles bilingues, en tout cas, que nous avons connues à un moment, les enfants, quand ils vont aux examens, c'est des gros scores qu'ils font. Mais après, ça se perd. Parce qu'après, il n'y a plus de continuité au niveau de l'autre langue. Donc, c'est la langue française qui domine. Même ceux qui font franco-arabe, regardez, si vous faites les statistiques, vous voyez que les gens qui font franco-arabe, rares sont ceux qui arrivent à occuper de grands postes. Parce qu'en chemin, ils se perdent. Ils se perdent en chemin.
Discours politiques, on le sait bien, c'est en français qu'il faut les rédiger. Oui. Et très souvent, les cérémonies, tout est en français.
Et parfois, les études aussi. Même les écoles.
Quand on ne comprend pas la langue, c'est des problèmes.
Même les écoles aussi. Par exemple, quand vous arrivez, par exemple, vous faites une langue autre que le français, vous arrivez au lycée, au collège, ça tient un peu, peut-être au lycée, après, vous perdez la langue. Moi, je vous donne mon exemple. Je sais que quand on était au lycée, nous, on avait le choix ou de faire l'arabe ou de faire l'espagnol. Donc, on a fait français, espagnol, on a fait jusqu'à l'université. Mais quand on arrive à l'université, il n'y a plus moyen. Il n'y a plus de profs d'espagnol. Donc, on était obligé de nous rabattre dans d'autres, ou en anglais ou en arabe. Donc, pour vous dire que si ça arrive déjà au niveau de l'espagnol, et je ne pense pas que la situation ait changé encore aujourd'hui. Imaginez les autres langues. Imaginez, par exemple, quelqu'un qui fait germain et autre chose, où tu vas de l'improvisation, où on va t'amener dans un circuit où tu vas devenir, je ne sais pas, quelque chose, quelqu'un qui va corriger peut-être. En tout cas, ta carrière est forcément limitée.
Merci beaucoup, Monsieur Amadou Edouard Lompo. Il faut rappeler que la journée de la francophonie, qui valorise donc cette langue, a été célébrée dimanche 20 mars 2022. Monsieur Soumane Chamsou, on voit donc que c'est une langue qui attire la considération sociale. Mais selon vous, pourquoi est-il important de maîtriser cette langue?
La maîtrise de la langue française est importante parce que, comme Edouard Lompo l'a dit, c'est la langue de prestige, c'est la langue d'administration. Et vous l'avez rappelé aussi dans votre introduction, c'est la constitution du pays qui l'a imposée comme langue officielle. Donc, apprendre la langue, elle est importante parce que c'est ça l'objectif de l'évaluation. Quand on évalue, c'est qu'on est en train d'évaluer un certain nombre d'aptitudes de l'apprenant. Et dans les critères de l'évaluation de ces aptitudes-là, il faut forcément qu'il y ait l'apprentissage, la maîtrise de la langue du savoir. D'abord, le français dans l'Afrique de l'Ouest, dans les colonies françaises aujourd'hui, c'est la langue du savoir. On ne parle pas français seulement parce qu'on est venu à l'école, mais le savoir se trouve dans la langue.
On voit d'ailleurs que quand quelqu'un parle bien français, on estime qu'il connaît tout déjà.
On est obligé d'estimer cela parce que la connaissance, elle est souvent livresque. On pense que celui qui maîtrise la langue a forcément beaucoup lu. Et à partir de ses lectures, il a acquis une expérience de vie. Et c'est ça, c'est pour cela qu'on le considère comme quelqu'un qui maîtrise les domaines. Et Rabelais l'a dit, ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour le dire arrivent aisément. Ça veut dire qu'il faut forcément lire régulièrement pour avoir une familiarité avec les mots, pour pouvoir dire aisément ce que l'on pense. Donc l'extériorisation de nos pensées aujourd'hui se passe par le français. Aujourd'hui, cette langue française, qu'on le veut ou non, elle est ancrée en nous et elle a fait de nous de nouveaux êtres. C'est ça qui fait l'importance. Pour qu'on devienne un savant, pour qu'on pense être un cultivé, il faut avoir la langue. C'est un outil de culture. Le français, moi, je peux le comparer au latin pour les Français, pour les Occidentaux. Au début, eux-mêmes, les Français avaient eu le latin comme langue de savoir. Donc, il fallait apprendre le latin pour être cultivé. Pourtant, ils communiquaient dans leur langue locale. C'est la même chose aujourd'hui. Les Nigériens, nous sommes là, nous apprenons le français, mais en même temps, à la maison, nous parlons le germain ou le hausa. Entre germain et hausa, on parle les deux. Souvent, un germain, il comprend très bien le hausa. Parfois. Le hausa lui parle il essaie de capter ce qu'il a compris, il le reprend en germain, l'autre, il essaie. Donc la communication passe, même s'il n'y a pas le français. Il ne faut pas que les gens pensent que c'est le français qui est langue intermédiaire entre nos peuples. Ça, je ne suis pas d'accord. Même s'il n'y avait pas eu le français, on allait pouvoir se communiquer. Mais je dis, l'importance de la langue française, c'est que nous n'avons pas été laborieux pour produire des œuvres dans lesquelles notre culture, notre connaissance, notre philosophie et notre art, notre science pouvaient être apprises. Aujourd'hui, sincèrement, qu'on le veut ou non, pour apprendre la science, pour apprendre la connaissance philosophique, il faut des documents. Je peux être le plus intelligent si je ne lis pas des documents philosophiques, des documents littéraires, je ne peux pas comprendre le peuple, le monde dans lequel je vis. Donc la langue française est devenue un outil de la recherche de l'intelligence.
Ça veut dire qu'on vous comprend bien ici, il faut comprendre que la langue française n'est pas seulement une langue de communication,
mais
c'est aussi
au-delà.
Une langue qui va au-delà, puisqu'elle nous permet d'acquérir le savoir, puisque les livres, en termes de connaissances, sont pratiquement tous écrits en français. Merci beaucoup, M. Abraham Idi. Vous êtes également enseignant de cette langue française au lycée. Aujourd'hui, quel constat faites-vous par rapport au niveau de sa maîtrise par les scolaires nigériens?
Le constat, il est vraiment amer. C'est triste de voir que le Niger, qui par le passé était une sorte de référence, était un pays qui impressionnait par la haute qualité de ses intellectuels, se retrouve aujourd'hui avec des élèves qui, ma foi, jusqu'en classe de terminale et de surcroît en terminale A4, ils ne peuvent pas vous aligner 5 phrases correctement. Moi, je pense que c'est insultant, c'est révoltant, et il y a des failles qui sont là, qu'il va falloir peut-être situer au niveau de certaines responsabilités. Je me dis également que nous autres, professionnel peut-être de la chose, je dirais nous autres enseignants, nous avons la mission fondamentale de solutionner cela.
Il faut solutionner, mais qu'est-ce qui manque en réalité? À quel niveau se trouve le problème? Par exemple, quels sont les différents types de fautes de la langue française que nous commettons le plus souvent ou que vos élèves commettent le plus souvent lorsque vous les lisez sur leur copie?
Oui, les fautes, elles sont multiformes. Il y a des fautes grammaticales, il y a des fautes orthographiques. Et qu'est-ce qui amène ça? Moi, je me dis fondamentalement, c'est parce que ces élèves-là, ils ont tourné le dos au livre. Oui, et pour paraphraser un homme politique français que j'aime bien, j'ai nommé ici Jean-Luc Mélenchon, il nous dit « Nous sommes les enfants de milliers de livres écrits et de milliers d'années avant nous ». Donc c'est pour dire que toute la vie, elle est enfuie dans les livres. Et ces élèves, ils se retrouvent avec ces difficultés orthographiques et grammaticales parce que effectivement, ils ont tourné le dos au livre. Il y a un manque de volonté assez visible qui est là, des élèves.
Vous savez, il y a la paresse.
Voilà. Parce que moi, je me dis qu'on ne peut absolument pas changer quelqu'un qui n'a pas véritablement envie de changer. Il y a aussi la disparition des bibliothèques publiques. Les quelques rares bibliothèques qui sont là, elles sont très éloignées. Imaginez un peu, un élève ou un enfant qui est à Kouartégui, s'il faut qu'il consulte de manière régulière le CCFN, ce que ça va lui coûter en termes
de
dépenses
de
et d'énergie à fournir, vous voyez. Et aussi, il faudrait dire que l'État a failli, et il a contribué significativement dans cette baisse de niveau, parce qu'on n'a pas su réhabiliter ces bibliothèques. Et au niveau du programme scolaire, il n'a pas été prévu des heures de lecture. Moi, je pense que c'est des choses par rapport auxquelles il faut réfléchir. Il faut peut-être imposer des heures de lecture et intimer au chef d'établissement l'ordre de respecter ces heures de lecture afin de corriger ces différentes lacunes. Et l'autre peut-être problème, c'est l'invasion de la technologie. L'arrivée de la technologie a fait en sorte que les élèves ont totalement rejeté le livre. On voit aujourd'hui une nouvelle génération qui est née, qu'on appelle la génération écran. Ils ont tout le temps les yeux dans les écrans. Ce qui fait qu'ils sont rebutés, ils sont
dégoûtés. On voit même
du...
les abréviations au
voilà.
niveau des messages.
Voilà, vous voyez,
très
tout
souvent,
ça là...
c'est complètement erroné. Alors que dans la langue française, par exemple, on ne peut pas abréger normalement comme on veut.
Oui, logiquement. Et je me dis aussi, même s'il faut abréger, il faut savoir là où abréger. Peut-être avec des amis, des collègues, tu peux abréger. Mais je me dis, quand tu écris à un supérieur, il faut obligatoirement écrire en toutes lettres. Donc moi, franchement, c'est différentes choses que j'ai pu remarquer et qui, ma foi, je me dis que c'est elle qui contribue significativement à baisser ce niveau.
Merci beaucoup. Voyons justement à présent comment la lecture peut contribuer à améliorer le niveau de compréhension de la langue française. Monsieur Amadou Edouard Lompo, écrivain nigérien et directeur général de la Bibliothèque nationale du Niger. Quand on parle de la lecture, qu'est-ce que ça veut dire en réalité?
Bon, d'abord, c'est d'abord un exercice. Je pense que nous tous, on a été à l'école, on a bien vu nous mettre écrire les A, les B, après les associés. Nous-mêmes, nous apprendre à écrire. La famille Boda, on connaît. Mamadou et Binetta, on connaît. C'est des mots qu'on lisait sans comprendre. Après, on commence à comprendre. Donc, c'est d'abord un exercice. Après, c'est devenu un plaisir. Moi, je pense que tous ceux qui continuent à lire aujourd'hui ou tous ceux qui écrivent, c'est qu'à un moment, on a lu quelque chose qui nous a plu. Après, maintenant, on veut avoir le même plaisir en cherchant d'autres œuvres, peut-être du même auteur, peut-être d'autres auteurs. Après, maintenant, on se rend compte que parfois, on est déçu ou parce qu'on n'a pas compris. Parce qu'il y a des œuvres qu'on lit, par exemple, au primaire. Moi, je sais que j'ai lu des œuvres au collège. Par exemple, Le Vieux Nègre et la Médaille. La première fois où j'ai lu, c'était en cinquième.
Ah bon. Mais... alors qu'actuellement, c'est au lycée que les gens lisent ça.
Oui, moi, je
lis. Dans la bibliographie officielle
peut-être
même.
Je n'ai pas tout compris.
Le Vieux Nègre et la Médaille, actuellement, compris, hein, c'est au lycée.
Parce que j'ai détesté Ferdinand Oyonnax pendant, je crois que pendant longtemps.
Ouais.
Avant de peut-être comprendre ça au lycée un peu. Parce que je ne comprenais pas qu'il puisse maltraiter un vieux comme ça. Voilà. Donc ça m'a... Je ne comprenais pas. Je regardais, c'est le livre bleu avec la tête... Parce que ça m'a... Je me dis, comment il peut faire ça? Après, maintenant, j'ai lu, j'ai vraiment compris plus tard. Donc c'est un peu comme ça. Hein. On a des déceptions, on a des faux plaisirs, on a des plaisirs. Et puis, après, ça évolue. Ça évolue. Donc c'est un peu ça. C'est un exercice, après ça devient un plaisir. Malheureusement...
Est-ce qu'on peut dire que le début est difficile? Parce qu'on voit des élèves qui ne lisent pas du tout, il faut le dire quand même.
Il faut trouver le... Moi, je pense que c'est une chance de trouver le bon enseignant, de trouver le bon maître, de trouver, je ne sais pas, le bon prof, de trouver celui-là qui sait vous donner ce plaisir-là. Parce que c'est important.
Et on peut le donner, ce plaisir?
Mais on peut le donner, on le donne.
Qu'est-ce qu'on peut faire à un enfant, par exemple, pour qu'il s'intéresse davantage à la lecture et qu'il s'y mette
sur le livre? Déjà, en tant que parent, si vous êtes parent et que vous lisez, votre enfant va vouloir faire comme vous, il imite. Il essaie de voir ce que vous faites. Un jour, il va vous demander qu'est-ce que ça veut dire. L'enfant va commencer à se poser des questions. C'est en ce moment que ça se passe. Il lit, n'a pas compris, vous discutez. Si vous regardez des émissions intéressantes, l'enfant va suivre en même temps que vous. À partir de cela, il va commencer à comprendre. Il comprend, il ne comprend pas, jusqu'à ce qu'il va prendre le goût de quelque chose. C'est ça le travail. Par exemple, comment donner plaisir à un enfant? C'est peut-être l'extirper de la classe. Parce que la classe ne suffit pas. Parce qu'on est en classe, on est obligé de faire. Si peut-être en dehors de la classe, ce que les Occidentaux ont bien compris, on fait des cours, je ne sais pas, de théâtre, où on fait des cours de musique, où on fait du petit... juste de lecture à haute voix. Ce sont des choses comme ça qu'on fait. Même dans nos classes, on les fait, mais sauf qu'il y a un bâton derrière. C'est-à-dire, tu es en train de lire, tu te trompes et puis, pam, on ne te dit pas pourquoi tu dois prononcer comme ça. Parfois, on te le dit, mais on te frappe. Bah, parfois, ça dégoûte un peu. Parce que je sais que nos profs... moi, je vais à l'école mission, je sais que notre maître, il a une liste. Ceux qui lisent bien, ceux qui lisent pas bien, ceux qui lisent mauvais, ceux qui sont très mauvais, il a la liste. Donc, ça, on sait le jour où il est de bonne humeur, le jour où il n'a pas venu, enfin, des fois, il prend l'autre liste. Dès qu'il dit un nom, on dit, OK. Si vous savez que vous ne lisez pas bien, vous êtes sauvé ce jour-là, ça veut dire qu'il n'y a pas de bâton. Mais le jour où il commence par l'autre liste, on sait que ça va chauffer. Donc, il y a peut-être... c'est extrémiste, ça. Mais je pense qu'il y a d'autres méthodes. Franchement, sortons cela de la classe. Comme l'a dit le collègue, il faut des bibliothèques. Il faut des bibliothèques. Il faut des livres. Aujourd'hui, quelle que soit la volonté du prof, il n'y a pas de livre. Il n'y a pas de livre. Paradoxalement, il y a des livres dans la ville moins chers, à 1000 francs. Mais comme les élèves à l'école n'ont pas été initiés à lire, ces livres à 1000 francs-là, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Donc, il y a ce travail à faire, franchement. Donc, voilà. Tout à l'heure, vous disiez, par exemple, il y a des fautes qui reviennent, les fautes qui reviennent. Bon, je pense qu'il y a un livre que Issa, ils ont écrit, ils ont fait les nigérismes. Je crois qu'il y a ce livre-là qui circule déjà. Où on a des propres... Ça dit, les Nigériens, on a une façon de dire, par exemple, la descente, des trucs. Il y a des termes qui sont forcément nigériens.
Nigériens, on ne comprend pas là, mais il y a des fautes grammaticales. Par exemple, quand quelqu'un dit, je leur ai dit... Vous voyez, là, ça, c'est extrêmement dangereux parce
c'est
que...
C'est infernal.
Vous voyez, on peut comprendre quand c'est des termes, par exemple, dans certains pays, on va bouffer, tout ça, on comprend que c'est une manière de dire, on va manger. Mais quand c'est une faute grammaticale, c'est une faute
au-delà de ce mélange-là, au-delà de ce mélange de genre, de niveau, de langue, il y a surtout, moi je remarque au niveau des Nigériens par exemple, le problème c'est entre épouser et marier par exemple. On marie sa fille et dit, on ne sait pas, les gens ne savent pas faire la différence entre marier et épouser. Parfois ça va dans les deux sens. Il va dire, j'ai marié, on marie sa fille. On marie sa fille à quelqu'un.
Ou on épouse,
on épouse quelqu'un. Mais parfois au Niger on a ce sens-là. On a ce sens-là qui se mélange. Il y a le... Un problème, je pense que ça, c'est au niveau de même des intellectuels. Hein, ça arrive, c'est au niveau du don et du que. L'emploi du don et du que, parfois, ça foire aussi. Parfois,
L'enfant dont je vous ai parlé.
Voilà. Ça, c'est des petites choses qui arrivent, qu'on peut peut-être, parce qu'on a fait de longues phrases, on peut se perdre. Mais c'est des choses qui sont très, très courantes.
Mais est-ce que ce n'est pas parce que la langue française est aussi une langue qui est un peu difficile? Par exemple, quand on dit les huit enfants, vous voyez qu'on a l'impression qu'il faut dire les huit enfants. Alors que c'est une faute, puisque 8 ne prend pas de S à ce niveau.
Non, mais je pense que tout le monde sait que la langue française est extrêmement compliquée. Je pense que même parce que volontairement compliquée. Parce que déjà, les articles au niveau de le ou de la, c'est très compliqué.
C'est compliqué, alors c'est qu'en anglais, il n'y a pas ça.
Voilà, en anglais, il n'y en a pas. Hein. Tu vois bien que les gens qui parlent anglais, tout de suite, tout le monde parle anglais. Le pidgin, ça marche bien, les gens se comprennent plus vite. En français, on est obligé de faire attention, le ou la, c'est très compliqué. Moi, je pense que c'est volontairement compliqué. On se rend compte que plus le temps passe, plus ça se complique. Il y a des mots déjà que vous avez du mal à maîtriser. Après, vous l'avez maîtrisé que l'année prochaine, on a changé le mot. On vous dit non, on n'a plus l'accent. Non, l'accent ne marche plus. Cet accent-là, on l'enlève, on met. Voilà, donc c'est de plus en plus compliqué. Voilà. Vraiment, même les gens sont compliqués, en fait. Voilà, par exemple, cette écriture inclusive qu'on fait maintenant. Vous avez maintenant les messages, quand vous les recevez, on met le point, on met E, S, on met I, E. On ne sait pas comment ça se passe. Voilà, et donc, c'est très, très compliqué. Même en Europe, même en France, maintenant.
Bien sûr, même en France. Monsieur Soumane Chamsou, on voit que parfois même l'Académie française est obligée de s'apesantir sur certaines questions. Et on voit justement que la langue française évolue par rapport à ça. Est-ce que ça ne rend pas difficile l'apprentissage?
L'apprentissage de la langue française, ça a été toujours difficile. L'évolution de la langue ne peut qu'empirer. Mais quand même, Edouard l'a dit, la lecture, ça s'apprend. Et dans l'apprentissage de la langue française, les difficultés sont dues au fait que chaque fois, on découvre ce que moi j'appelle la polysémie. C'est ça qui...
C'est-à-dire le fait qu'un mot peut avoir beaucoup de sens.
Beaucoup de sens. C'est ça qui rend difficile, d'ailleurs, l'apprentissage de la langue. Parce que un enfant, il grandit avec un seul sens. Un beau matin... Il utilise ce mot, on lui dit, c'est pas ce que ça veut dire.
Par exemple, quand on dit un avocat, on sait que c'est une personne qui travaille au niveau de la justice, mais on peut dire aussi un avocat, c'est un fruit.
Par exemple, dans notre zone, il n'y a pas l'avocat.
Bien sûr, et c'est à la côte que les enfants connaissent plus.
Nous connaissons que l'avocat comme
une personne.
Donc, la fonction juridique de la personne. Voilà que... On m'amène un fruit venant de la côte, on me dit que viens prendre un avocat. Comment je vais penser directement au fruit? Parce que je ne le connais pas. Donc il y a ce problème de l'apprentissage de la langue. Par exemple, pourquoi les gens pensent qu'il fallait rompre avec la famille Bouddha? Une fois avec un inspecteur, je disais que moi je ne suis pas d'accord pourquoi on avait... suspendu l'usage de la famille Bouddha pour amener lire et écrire.
Pour lire et pour écrire. Au niveau du primaire.
Au niveau du primaire. Il me disait, les gens l'avaient tellement attaqué, disant que le contenu ne correspond pas à nos milieux. C'est purement conçu pour des milieux citadins, des milieux occidentaux.
C'est vrai, quand on lit ce qu'on voit, le domino, le lavabo.
Exactement.
Le lavabo, là, c'est pour les riches.
Donc, j'ai dit non, mais quand même, c'est ça l'apprentissage. On doit découvrir l'enfant qui ne connaissait pas cela au village, mais le maître peut aussi même ne jamais entendre parler de lavabo.
Puisqu'il ne l'a jamais vu.
Puisque lui-même, il ne l'a jamais vu. Mais c'est important parce que...
Sans vous couper la parole dans le même registre, on avait un camarade à la fac, il a dit, lui, on lui a toujours parlé de lavabo au primaire, il n'a vu le lavabo qu'à l'université, une fois qu'il a obtenu son baccalauréat.
Le plus important ici, M. Souman Chamsou, est-ce que ce n'est pas les syllabes qui intéressent ceux qui ont eu à faire la rédaction de la famille Bouddha? Parce que l'idée ici, c'est de savoir lire la, va et beau. Est-ce qu'à ce niveau, il n'y a pas une utilité, même si la personne ne sait pas de quoi il s'agit?
Ça, j'allais dire,
au moins, on arrive à lire ça.
Ça apprend à lire. C'est le meilleur document conçu pour apprendre à lire.
Le meilleur document.
Le meilleur document, sincèrement, pour apprendre à lire. Aujourd'hui, il y a des maîtres qui l'utilisent officieusement, parce que officiellement, il n'est pas là. Mais il y a des...
Ça veut dire
il
n'est pas dans le programme officiel.
Oui, mais officieusement, il y a des enseignants qui l'utilisent dans leur classe. Parce qu'ils savent que c'est avec ça. Et vous savez, sans se cacher la vérité, le programme, le système éducatif, il va de mal en pis parce que c'est une volonté politique. On veut rabaisser le niveau. On veut former des gens qui savent lire et écrire, non pas des gens intelligents.
Ça veut dire que vous pensez, selon vous, que c'est fait à dessein?
À dessein. Je vous dis pourquoi. Ce monde dans lequel nous sommes, on ne veut pas de révolutionnaires. Les littéraires sont des révolutionnaires. Ils conçoivent les idées, ils comprennent. On ne veut pas aujourd'hui des gens qui comprennent pour lire et écrire. On veut des gens, des scientifiques qui sont là pour seulement agir en appliquant des règles strictes. C'est cela.
Mais qui ne veut pas, quand vous dites on ne veut pas?
Mais qui fait le programme? C'est l'État.
C'est l'État.
C'est une politique éducative qui est là.
Mais l'État, c'est les citoyens qui dirigent.
Dans nos pays, Michel, vous pouvez dire qu'aujourd'hui, les citoyens ont un pouvoir de décision dans ce pays. Aujourd'hui, qui finance l'éducation? La preuve, je ne suis pas politicien, je ne critique personne. C'est les années où la France a décidé de rompre avec sa subvention de l'éducation, il faut voir le nombre de cahiers qu'on donnait aux enfants. Avant, on donnait 12. Cette année, il faut voir, on a donné 2 cahiers à des enfants. Moi, j'ai distribué des cahiers. Ni ensemble géographique, ni stylo. Il n'y a rien. L'État n'a pas pu investir. Parce que c'est la politique éducative, elle n'est pas autonome. Nous attendons à ce que chaque instant, les bailleurs de fonds financent notre éducation. Et tant que c'est les bailleurs de fonds qui financent notre éducation, c'est eux qui imposent le système et les méthodes d'enseignement. Je pense, les politiciens disent qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Si le livre-là avait formé tous ceux-là qui sont performants, comment on pouvait le changer pour amener un autre livre qui n'a pas fait encore ses preuves. Le système de journée continue. Est-ce qu'on l'avait évalué pour savoir l'impact que c'est en train de faire sur le système éducatif? Non. On n'avait pas commencé avec le système de journée continue.
Bien sûr.
On avait deux descentes.
Éducatif,
oui. Oui, donc aujourd'hui, parce qu'il y a des syndicats forts qui avaient lutté pour qu'ils descendent en même temps que leurs enfants, on a accepté ce système. Je ne parle pas du programme, mais de l'impact social. Ces enfants qui descendent à 13h30, le soir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quelle activité ils vont faire? Il faut qu'on les occupe. C'est en classe qu'on doit les occuper. Ils doivent lire. Ce système existait dans les pays anglophones depuis. Mais ces gens-là, ils le faisaient pour vaquer à d'autres occupations à partir de la descente. Aujourd'hui, quand l'enfant sort de la classe à 13h30, il va à la FADA. Il est en train de boire du thé jusqu'à 2h du matin. Quelle activité lucrative cet homme est en train de faire? Quelle est sa contribution dans l'économie, dans le développement de ce pays? On pouvait garder. Les enfants doivent aller de 8h à midi. Ils descendent de 15h à 18h. C'est ce système-là qui va faire en sorte que l'école marche très bien. Mais ça n'arrange pas les politiciens. Et ils ont décidé de faire.
C'est vos avis, vous avez expliqué, par rapport notamment à la question des livres de lecture, parce que ces livres officiellement sont conçus par l'INDRAP, qui est une institution de l'État. Merci beaucoup, M. Abraham Idi. Comment solutionner tout cela? Vous l'avez dit au tout début, les bibliothèques manquent aujourd'hui, les élèves ne sont pas intéressés. Mais dans le programme, quand même, officiellement, chaque année, il y a des livres qui sont recommandés et qui doivent être lus nécessairement. C'est bien cela?
Oui, et c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a la faille aussi qui revient aux enseignants. nous sommes en train de faillir parce que nous ne créons pas les conditions pour que cette bibliographie qu'on donne en début d'année soit respectée.
Parce qu'officiellement, quand même, il y a une bibliographie. Oui. Ça veut dire l'élève, à partir de la classe de seconde, on voit des livres, Ville cruelle, les abotos, l'aventure ambiguë, le vieux nègre, la médaille. Tous ces livres, c'est au lycée.
Oui. Malheureusement, comme je le dis, les enseignants, ils se contentent tout simplement de recopier la bibliographie. Et ils ne créent pas les conditions pour que cela soit respecté.
Dans certaines écoles, on voit des exposés, par exemple, les élèves, on les met en groupe, ils font des travaux de groupe. Justement. Normalement, chacun est censé lire l'ouvrage et après, on fait une présentation dans la salle.
Mais moi, j'ai rencontré des élèves qui m'ont dit que de la seconde jusqu'en terminale, ils n'ont jamais fait d'exposé. Jamais. Et ils sont nombreux, ces élèves, qui atterrissent à l'université sans jamais, jamais lire le moindre petit ouvrage.
Et quel est l'impact, le fait de n'avoir jamais lu les ouvrages?
Tu deviens extrêmement limité, même en situation de débat, tu n'auras pas suffisamment de quoi dire, parce qu'il y a une carence qui est là, qui est visible. Donc, je disais par exemple tout à l'heure qu'on peut solutionner cela en réhabilitant les bibliothèques, mais aussi, de notre côté, les enseignants. Moi, personnellement, dans mes classes, voilà ce que je fais. Il y a toujours un livre qui est en lecture pour 2 semaines. Chaque 2 semaines, il y a un livre qui est mis en lecture et tous les élèves se doivent de le lire. Maintenant, à la fin donc, de la 2e semaine, je programme une évaluation. Menacé par la note, l'élève est obligé de lire parce qu'il sait qu'il sera sanctionné à la fin par une note. Ce qui fait que dans le mois, on a au moins 2 ouvrages que tout le monde est obligé de lire. Quand vous prenez l'année scolaire, elle fait 9 mois. Sur cette échelle de 9 mois, même l'élève qui n'a pas envie de lire, il se retrouvera avec un certain nombre de livres lus. Et c'est extrêmement important et c'est positif pour lui. Aussi, il y a les exposés. Je donne des exposés collectifs, mais je donne aussi des exposés individuels.
Il y a des moments. Mais les exposés aujourd'hui, excusez-moi, c'est que tout est sur le net et il y en a qui font du plagiat, on a l'impression, parce que moi, personnellement, j'ai l'habitude de voir des élèves qui vont dans des cyber. Quand tu leur demandes qu'est-ce qu'ils cherchent, ils disent « on nous a donné un exposé ». Ils n'ont jamais lu l'ouvrage, mais vous allez voir, ils vous présentent un travail, en tout cas, relativement
c'est
excellent.
C'est ce qui fait que moi, depuis un certain nombre
d'années, est-ce que vous arrivez à détecter les gens qui font ces plagiats?
Oui, mais voilà pourquoi moi, ce que j'ai décidé de faire depuis un certain nombre d'années, je ne fais plus d'exposés avec support. Vous allez venir faire les exposés sans support.
Sans support.
Et à travers la présentation, je peux facilement comprendre qui a lu l'ouvrage, qui ne l'a pas lu.
Oui, parce que le plagiat, c'est du vol intellectuel.
Oui, c'est du vol intellectuel.
Quand la personne est habituée, on a l'impression que plus tard, elle ne peut plus faire des efforts personnels.
Effectivement, et ça se remarque parce que ça devient une mécanique récitation. L'enfant ne fait que réciter sans pour autant véritablement comprendre. Maintenant, à travers quelques petites questions pièges, tu comprends si réellement il a lu ou s'il n'a pas lu. Voilà pourquoi moi, j'ai dit, je ne veux pas l'exposer avec support. Chacun est censé maîtriser sa partie et venir faire un travail explicatif. Donc, c'est cela. Aussi, comme l'a suggéré M. Edouard tout à l'heure, les parents doivent s'impliquer parce que les enfants voient et les enfants apprennent. Si le père, de lui-même, il a l'habitude de faire cela, il va de soi que l'enfant cherche à l'imiter, à le copier. Et dans le même registre, moi, je me souviens, quand j'étais encore au collège, je n'aimais pas du tout lire. Le papa m'a obligé à aller à la bibliothèque. Il m'a inscrit de force. Et qu'est-ce qu'il faisait? Maintenant, à chaque fois que je partais prendre un ouvrage, il vérifie d'abord si l'ouvrage est de mon âge. Après quoi, il me dit de partir le lire.
Après c'est lecture, vrai, il y a des livres, le lexique est très compliqué.
Voilà, compliqué. Maintenant, il se débrouille pour que je prenne des livres qui sont de mon âge. Et après, il vient, il se contente de lire le substrat qui est offert derrière pour s'imprégner de la réalité de l'ouvrage. Il me demande de lui faire un résumé oral de ce que j'ai lu. Maintenant, dès que je commence à tâtonner, il comprend que je n'ai pas lu, il me renvoie à une 2e lecture. Et c'était comme ça qu'il m'avait forgé jusqu'à ce que j'ai réellement pris goût. Il arrivait un moment où il n'avait pas besoin d'exercer cette pression sur moi, je le faisais par moi-même. Il faut dire que les réalités sont carrément différentes aujourd'hui. Les enfants, ce n'est plus comme les enfants d'antan qui pouvaient faire les choses par eux-mêmes. Aujourd'hui, il faut obligatoirement la présence d'une menace, d'une certaine autorité pour amener ces enfants à aller vers le livre.
Merci. Tant... Monsieur Amadou Edouard Lompo, qu'est-ce qu'il faut faire alors pour solutionner tout cela?
Moi, je vais aller... Moi, j'ai des masters. Moi, j'ai fait cours dans une institution de La Place. J'ai des masters. Les masters 1. Et je m'étais rendu compte qu'ils sont dans la même situation. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on est en master et on n'a pas lu. C'est-à-dire master, c'est à quelques pas de doctorat. Et vous n'avez jamais lu ou vous n'avez lu, je ne sais pas. En tout cas... Le constat que j'ai fait, ils n'ont lu aucune œuvre nigérienne. Mm-hmm. Ça veut dire que je suis en train de faire ça depuis 6 ans. Mais ça veut dire, quand vous leur demandez telle œuvre, ils connaissent ouais, comme ça. Mais une œuvre nigérienne, jamais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour ces masters-là? Chaque année, j'ai 30 heures de cours. 30 heures de cours, vous avez 2 œuvres nigériennes à apprendre, à lire. Et il y a des exposés à faire. Donc, déjà, nous avons quoi, 30 heures, c'est... Voilà. 30 heures de cours, 2 œuvres. Donc, je cherche les œuvres moi-même. J'avais dit, j'ai commencé par exemple, Adamu Idé, Ahmad Ousmane, tous les grands auteurs que j'ai eu la chance, certains, Ahmad Ousmane, avant qu'ils ne décèdent, j'ai pu les avoir aussi en salle. Ils viennent en salle, puisqu'ils se sont disposés, je les invite à venir en salle. Je cherche les œuvres moi-même. Les élèves achètent les œuvres. Et maintenant, ils font des groupes et ils exposent. Et avec la chance d'avoir enfin de session un auteur, l'auteur lui-même qui vient, qui leur parle. Mm-hmm. Parce que d'autres me disent à la fin, moi, c'est la première fois que je lis une œuvre. Vous vous rendez compte de la catastrophe? On est en master. Je ne dis pas collège, lycée. On est en master. On est en train de vouloir devenir docteur, peut-être. Et on n'a pas lu une œuvre nigérienne. Mm-hmm. Ça dit les auteurs, je ne sais pas. Parce que ça, c'est l'État aussi.
C'est quoi les impacts, monsieur?
Mais les impacts, c'est que vous ne connaissez rien de votre société. Mm-hmm. Mais vous ne connaissez rien de votre réalité. Vous ne connaissez que ce que les autres ont écrit ou ce qu'ils ont vu sur le net. Mm-hmm. Et c'est en fonction de ça que vous voulez fonctionner. Vous n'avez pas forger votre propre réflexion.
Mais moi, par rapport à la maîtrise même de la langue, est-ce que ça a un impact?
Mais par exemple, on a dit tout à l'heure, par exemple, ce que le collègue fait en classe, 2 œuvres par semaine, vous êtes obligé de lire, vous venez sans support, ça vous donne une certaine élégance, ça vous donne une certaine façon de pouvoir faire. Mm-hmm. Maintenant, ça veut dire quand il dit 2 œuvres, ça veut dire que ce n'est pas l'école qui les fournit, ça veut dire qu'il est obligé d'aller sur le marché, comme les œuvres coûtent moins cher, d'aller acheter ces œuvres-là, et chacun est obligé d'acheter et de venir faire. Vous voyez l'effort financier que ça nécessite. Sauf que le programme officiel du Niger le dit, et ça n'a pas été changé, je ne pense pas que ça ait été changé. C'est par trimestre une œuvre intégrale à étudier. Moi, j'ai fait ça toute une vingtaine d'années. Donc, dans les 9 mois, 8 mois, vous avez 3 œuvres intégrales que vous étudiez. Donc, vous étudiez vous-même, en tant que prof, vous présentez l'œuvre. Les élèves ont des thématiques et ils viennent à groupe de 4, 5, 6, ils le font. Mm-hmm. Nous, on a fait ça au lycée Cassé de 80. Moi, j'ai fait ça toute ma vie, on va dire. Mm-hmm. Sauf que au lycée Cassé en 93, où j'étais revenu de l'ENR pour enseigner, on a pu le faire jusqu'en 96. À partir de 96, c'était plus possible de le faire. On était 8 profs, on n'avait pas d'œuvres. Et il y avait une grosse salle au lycée où il y avait plein d'œuvres. Mais chaque fois, les livres partaient derrière le marché. On n'arrivait plus, 8 profs, même un livre pour 7, on n'arrivait plus à le faire. Et qu'est-ce qu'on a dit? En tout cas, les 8 profs ont été réunis, on dit, bon, écoutez, il faut qu'on trouve une solution. On ne peut pas laisser les élèves aller comme ça, sans quand même... Enfin, on a créé une troupe. C'est là où on a créé la troupe Cassé. Donc, les 8 profs étaient devenus des metteurs en scène et on a fait une affiche pour avoir des œuvres. Parce que la seule œuvre qu'on avait, c'était 3 pétanins, mari de Guillaume Oyono, un bia, je crois que c'était... Mm-hmm. C'est comme ça qu'on a créé la troupe. Au moins, avec les élèves, on avait créé la troupe et régulièrement, on jouait pour que les gens... On s'est dit, même si on ne peut pas faire 3 œuvres par trimestre, on pouvait au moins, cette œuvre-là, on pouvait la jouer plusieurs fois. Voilà des méthodes qu'on avait adaptées. Mais à l'époque, c'est beaucoup de difficultés. C'est difficile, hein? C'est vraiment compliqué.
Merci beaucoup, c'est donc difficile. Quelle est la situation de l'accès justement des élèves aux livres au niveau des écoles publiques notamment?
Michel, c'est une pertinente question. Avant, moi j'ai fait le CG9 et nous avons bénéficié du CCFN, le Centre culturel franco-nigérien. Mm-hmm. Aujourd'hui, tout le problème qui se pose, il n'y a que les 2 grandes bibliothèques, CCOG et CCFN. Mm-hmm. Et CCFN, il y a eu un problème très sérieux avec l'affaire de l'insécurité là. Mm-hmm. L'accès est un peu difficile. Mm-hmm. On fouille les gens. Les gens ont commencé à se désintéresser avec trop de mesures protocolaires. Et deuxième, les ouvrages au programme ne sortent pas. Mm-hmm. C'est à lire sur place. Mm-hmm. Donc les élèves ne peuvent pas quitter leur quartier, payer 600 aller-retour et venir pendant 1 heure ou 2 heures lire quelques pages et retourner. Mm-hmm. Donc le problème sérieux...
Au niveau même des écoles, est-ce qu'il n'y a plus de bibliothèque, c'est ça?
Les écoles il n'y a pas de bibliothèque pour lire. L'État, chaque année, envoie des manuels scolaires. Donc des livres de maths, de français, mais pas les romans, les contes, les poèmes, c'est ça la lecture. Donc il y a des manuels scolaires que l'État envoie pour alimenter les bibliothèques des écoles. Mais il manque les ouvrages, c'est-à-dire que c'est l'aspect littéraire.
Donc vous recommandez que l'État puisse faire en sorte que les bibliothèques puissent fonctionner et qu'il y ait des romans partout dans les écoles.
Quand on parle de bibliothèque, moi, je vois directement les œuvres littéraires. Les manuels scolaires, aujourd'hui, les parents sont en train de les prendre. Un État qui est incapable de fournir les cahiers aux élèves, pourquoi il va déposer les livres? Alors que même les livres, ce n'est pas aux élèves. Aujourd'hui, les élèves ne bénéficient pas de ces livres. Les livres sont dans la bibliothèque. Nous avons une bibliothèque. Allez-y faire un tour. Combien d'élèves passent pour lire? Les manuels, ce n'est pas pour lire. C'est pour prendre et s'exercer. Avant, nous, à notre temps, on faisait le système de caution. À la rentrée, vous donnez une caution de 2000 ou 3000. On vous donne tous les ouvrages. Alors, en fin d'année, vous ramenez. Si vous avez perdu un ouvrage, vous perdez votre caution. Voilà comment on faisait. Mais aujourd'hui...
Mais parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'élèves, alors que maintenant, le nombre ne fait que croître, c'est ça.
Oui, mais l'État aussi a cru son budget. Aujourd'hui, on parle de 1000 milliards de budget ou 2000 milliards. Avant, il y a...
Donc, tout ça, voilà, c'est à revoir. Pour terminer, maintenant, la question même de la lecture, quelle solution préconisez-vous pour...
La solution, ça se prépare à l'école primaire. Le problème de la lecture, aujourd'hui, se situe au niveau de la base. Les élèves viennent en sixième sans savoir écrire leur propre nom. Sixième.
Donc, c'est à revoir.
Donc, un tout élève ça, de sixième améliorer. Qui ne peut pas écrire son nom, comment il peut lire?
Merci beaucoup. Monsieur Abrahamidi, comment assurer une bonne promotion de la culture de la lecture au Niger?
J'ai vu une initiative assez intéressante lors de la célébration de la journée de la francophonie, le Bibliobus. Le Bibliobus, c'est une bibliothèque ambulante qui passe de quartier en quartier, qui s'arrête. Les gens viennent, ils empruntent des livres pour 2 semaines. Après les 2 semaines, le bus revient, il ramène et ça continue ailleurs. Moi, je pense que si on arrive à multiplier peut-être ces bus, d'initiative, beaucoup de personnes seront amenées à lire. Parfois par curiosité. L'État... Je pense que c'est ça que l'État est en train de faire. En tout cas, le ministre s'est prononcé, il a trouvé l'entreprise louable. Et je pense bien que si on pourrait aller au-delà de ce seul bus, multiplier les bus et peut-être faire cela de Niamey jusqu'à Ngourti, ça serait très intéressant.
Oui. Des conseils aux élèves par rapport à la lecture, justement, afin qu'ils puissent améliorer leur niveau de
maîtrise. Je pense que le principal conseil que je vais donner, c'est de revenir vers le livre, de revenir vers les bibliothèques, parce que comme l'a dit Georges Duhamel, avec le livre, nous faisons acte de culture véritable. Quand tu tournes le dos au livre, tu perds un savoir capital. Le livre, c'est un véritable enseignant. Il nous enseigne la vie, il nous met en contact avec nos réalités, comme l'a retracé M. Edouard Lompo. Le livre, il a une dimension rhétorique, en ce sens qu'il nous initie à l'art oratoire, à la maîtrise du verbe, et il a aussi une fonction évasive, en ce sens qu'il nous permet de nous évader. Et là où il est peut-être mieux que le cinéma, quand vous prenez le film, on réfléchit à votre place, on vous donne du tout cuit, alors qu'avec la lecture, tu te représentes les scènes. Tu te représentes les couloirs, tu te représentes les personnages. Et c'est extrêmement créatif, c'est extrêmement important.
C'est une bonne chose alors de lire. Merci beaucoup, fidèles auditeurs. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangu qui a eu pour thème place de la lecture dans la maîtrise de la langue française. Et la langue française, c'est un rappel, c'est la langue officielle en République du Niger selon l'article 5 de la Constitution du 25 novembre 2010. C'est une langue de communication, mais c'est également une langue qui nous permet d'acquérir le savoir. C'est donc une langue qui nécessite une bonne maîtrise car elle a ses règles. Pour y arriver, la lecture est l'une des voies donc recommandées. La lecture nous fait du bien. Nos invités ont donc souhaité à ce que les élèves de plus en plus et tous les locuteurs de cette langue s'intéressent à la lecture pour être cultivés. mais également pour arriver à mieux maîtriser cette langue. Nous étions en compagnie de M. Amadou Edouard Lompo, écrivain nigérien et directeur général de la Bibliothèque nationale du Niger, M. Soumane Chamsou, enseignant de français et de lettres au lycée, et M. Abraham Idi, il est enseignant de français également. À la modération de ce forum, je suis Michel Deji, à la technique Amina Hassan. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. Au revoir.